Et nous sommes avec Philippe Charlaise, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla. Nous recevons le député Rassemblement National du Loir-et-Cher, je vais y arriver, Roger Chudeau, inspecteur général de l'éducation nationale, ancien chef d'établissement, ancien inspecteur d'académie et inspecteur général de l'éducation nationale. On parle évidemment de l'école. Monsieur le député, il y a deux épidémies. Il y en a une qui est particulièrement dramatique, dont on parle tous les jours, c'est l'épidémie des couteaux. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que des élèves, même dans des petites classes, meurent sous les coups de couteau, ce qui est quand même, pour des gens de ma génération, quand même absolument hallucinant. Et puis, le téléphone portable fait des dégâts énormes. Est-ce qu'il faut les interdire, tout simplement?
Alors, je vais commencer par les téléphones portables, puisque c'est l'actualité parlementaire récente. Nous avons interdit, par un vote très large, sauf l'extrême gauche, comme d'habitude, nous avons interdit... l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Nous avons interdit le portable au lycée. Il était déjà interdit à l'école primaire, évidemment, quoique. Et au collège, maintenant. Bon, voilà. Donc, ceci a été fait, sauf usage pédagogique, évidemment. Il n'est pas question de...
Donc, il est interdit jusqu'en terminale.
Voilà, incluse. Bon, les établissements mettront ça en œuvre. C'est la loi. Donc, il faut l'appliquer. Ce sera dans le règlement intérieur. Il y aura des modalités. Les enfants, les élèves déposeront leur portable peut-être dans un casier, peut-être dans une pochette qui en interdit l'usage. J'en sais rien. Enfin, bref. Nous verrons bien. En tout cas, les principes sont là. Le téléphone portable n'a rien à faire dans le temps scolaire. Dans le temps scolaire. Pour les couteaux, c'est différent. Là, on parle de sécurité. Alors là, c'est un autre métier. C'est plutôt un métier de policier. C'est de la sécurité active. Comment est-ce qu'on empêche des couteaux d'entrer dans un établissement? Parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque élève. On ne peut pas fouiller tous les cartables non plus. Il faut un officier de police judiciaire. C'est très compliqué. Et puis, en plus, ça prend un temps fou. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement des contrôles aléatoires. En présence ou non d'un OPJ, peut-être qu'il faut changer la loi, je ne sais pas. Maître, vous me direz si c'est possible. Tout est possible, en fait. Il faut des portiques, je vous le disais. Parce que les portiques sont dissuasifs. Même si les portiques sont aléatoires. Dans certaines entreprises, vous avez
comme
des portiques.
Comme dans les aéroports.
Oui, mais bien sûr. Mais attendez, quand on est à l'aéroport, on se met à moitié à poil, pardonnez-moi, pour pouvoir prendre un avion international, sur une ligne internationale. C'est insensé, personne ne proteste. On enlève ses chaussures, sa boucle, etc. Si vous avez une prothèse, ça couine de partout, il faut vous expliquer avec un certificat. Tout ceci est parfaitement faisable, c'est fluide. Alors, on va ricaner en disant, oui, vous avez jamais vu un lycée. Si, j'ai vu un lycée, j'ai même dirigé. Donc, je sais parfaitement que c'est faisable. C'est faisable, bon, on rentre un peu plus tôt. On peut faire des contrôles aléatoires. Ce qui est aléatoire est extrêmement inquiétant pour les gens qui ont des idées tordues. Et donc, c'est faisable. C'est de la sécurité active. Et je vous disais, le simple passage d'un véhicule de la police municipale ou nationale à l'heure de l'entrée au collège ou au lycée et à l'heure de sortie, on ne leur demande pas de monter la garde, on leur demande d'être là, d'être visible. Je vous assure que ça va calmer les amateurs de couteaux.
Et est-ce que c'est faire une croix sur un temps révolu de quiétude? Est-ce qu'on peut imaginer des mesures effectivement coercitives ou de surveillance et revenir un jour, parce qu'effectivement c'était Philippe de Villiers une fois qui l'exprimait, que c'était le cercle infernal, qu'on allait toujours de plus en plus loin et que désormais c'était même nos propres écoles
Mais le phénomène,
on aura demain des portiques partout.
Vous avez raison, on peut le déplorer, mais le phénomène est là. Il y a 585 couteaux trouvés dans... des couteaux, mais pourquoi faire? Enfin, je veux dire...
En 2025
Oui, on ne va pas durcir les lois, elles sont déjà très très bien faites. Il est interdit de porter une arme blanche sur soi tout le temps. Voilà, c'est pas compliqué, vous n'avez pas le droit, c'est tout. Vous pouvez l'avoir à la maison, dans votre voiture, etc. Si vous l'avez sur vous, il faut justifier, soit vous allez à la chasse, soit vous cherchez les champignons, soit... Enfin bref, en tout cas, un élève n'entre pas dans ces catégories. Donc non, mais c'est pas la peine de durcir encore le droit, ça ne sert à rien. De toute façon, les couteaux, ils seront achetés sur Internet. S'ils ne sont pas vendus à des mineurs dans une armurerie ou dans un bureau de tabac, parce qu'on en trouve dans un bureau de tabac, ils seront achetés sur Internet. Non, mais le phénomène est là. On a ce phénomène, et donc c'est de la sécurité active. Ça relève, à mon avis, davantage de la police que de l'éducation nationale. Mais évidemment, l'éducation nationale ne peut pas rester, fermer les yeux en disant non, nous, on ne se mêle pas de ça. Si, il faut intervenir.
Oui, Damien, bien sûr.
Oui, je voulais savoir si le Rassemblement national avait une position sur les fameux programmes EVARS. Vous savez, c'est éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Alors, ça, c'est un des aspects dont on a parlé, c'est-à-dire la distinction de l'instruction, l'éducation, et cette dynamique intrusive d'un progressisme libertaire sans fin qui vient et bon, enfin nous on en a connu les prémices, bon, mais là je crois qu'on atteint les sommets. Donc je voulais savoir quelle était la position du RN à ce sujet.
Ah, la position, ça tombe bien parce que j'aurai une autre question programme après.
Ah bon, d'accord. Sur les VAR, la position du RN est très claire. J'ai déposé, et elle a été signée par tout le groupe, une proposition de loi visant à réformer ça. Hein. Donc c'est-à-dire que les VAR, c'est éducation à. Nous contestons philosophiquement le fait que l'État éduque à la sexualité et à la vie affective. Ça n'est pas à l'État. Ou alors on est chez Big Brother, hein, ça n'est pas possible. Donc nous voulons remplacer le mot éducation par le mot information sûre. C'est pas la même chose. Parce que les acteurs de l'EVARS aujourd'hui, c'est à 80% des associations.
Très engagées.
Le planning familial, pour ne pas citer. Et d'autres, des associations gays, LGBT, machin truc. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. Sauf qu'on ne peut pas formater l'esprit de nos enfants sur le temps scolaire, quand même, avec un programme, faut voir le programme, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est absolument épouvantable, hein, un programme qui bouleverse complètement la sensibilité de jeunes enfants. On parle d'écoliers, là. Hein. Bon, donc nous, quand nous arriverons au pouvoir, nous supprimons les VARS et nous le remplacerons par une information sur la vie sexuelle, en parlant des risques inhérents à toute la vie sexuelle, les MST, le viol, l'excision, le harcèlement, etc. etc. Tac, tac. Et nous ferons délivrer cette information par des professionnels, c'est-à-dire les médecins scolaires, s'ils s'en trouvent, des infirmières, ils s'en trouveront, et les psychologues scolaires. Voilà. Les rares professeurs qui voudront éventuellement se mêler de cette affaire pourront le faire avec une formation ad hoc assurée par les précédents. Professeur de biologie, à mon avis, il peut parler de ça. Mais il faut qu'il le fasse soit dans le cadre de son programme, soit sous contrôle, après une formation par un médecin. Vous voyez, donc ça, nous changerons, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Alors, vous avez peut-être vu aussi ce manuel de sciences et vie de la Terre, là, qui est publié chez Nathan en 2020, qui était destiné à des élèves de terminale, et qui explique tranquillement que les solutions de réduction des émissions de carbone, quelles sont-elles? Alors, il fait un petit graphique, hein, et alors, de très loin, pour réduire les émissions de carbone, eh bien, il faut, avant de vivre sans voiture, d'éviter un vol transatlantique, d'énergie, d'acheter de l'énergie verte, etc. Avant, il faut faire moins d'enfants. C'est la solution numéro un pour contrer les émissions de CO2.
Et je confirme.
Et Philippe Jarlès confirme.
Effectivement que la démographie mondiale est un des premiers facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
On verra pour payer votre retraite, mon cher...
Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue comptable, c'est vrai, on peut pas le nier.
Oui, mais simplement de manière globale, sans doute. Mais enfin, je veux dire, la France.
Mais je dis de manière globale.
Oui, tout à fait. Mais quand on lit ça dans un manuel rédigé en français France, évidemment.
Non, mais je voulais faire monter Marc Baudrier au plafond.
C'est réussi.
C'est le malthusianisme classique, et puis en plus le mantra. Comment dirais-je, gauchiste, écolo, commencer l'anthropocène, etc. Enfin bref, pour les écologistes notamment, hein, en tout cas les militants politiques écologistes que nous croisons tous les jours à l'hémicycle, de toute façon, l'homme, l'humain, est à l'origine, est un prédateur. Hein, donc, il est grand temps qu'il se retire de la scène pour que les arbres puissent...
La préminence de Gaïa sur Sapiens.
Voilà. Donc, on a cette espèce de millénarisme vraiment minable, quoi. Je veux dire, du point de vue intellectuel, ça ne tient pas la route.
Y a peu de gens qui croient. Hein, vous allez faire un référendum là-dessus, sûr de gagner.
Non, mais ça, c'est ridicule. Non, par contre, qu'on soit en déprise démographique, c'est parfaitement clair. C'est tout à fait un danger mortel pour le pays. C'est très clair. Hein. Et s'il faut faire moins d'enfants, c'est pas ici qu'il faut en faire moins. C'est dans d'autres continents que je ne citerai pas. Mais ça me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, nous avons intérêt à faire des enfants et faire beaucoup.
On a un problème démographique
majeur. Mais bon, donc il paraît qu'il y a une proposition de loi là, qui circule en ce moment visant à relancer la natalité avec des propositions très, très audacieuses. Je ne l'ai pas encore lue, mais je me réjouirais que cela puisse, venir à l'ordre du jour.
Yves-Marie Chavilla, pardon.
Oui, non, très rapidement, je rebondissais sur votre question, Marc. Monsieur le député, sur les manuels scolaires, dans quelle mesure un ministère dirigé par un gouvernement Rassemblement National peut avoir une influence, un contrôle, comment ça se passe par rapport au manuel scolaire, qu'il se soit dans tous les domaines, comme vous l'imaginez, avec le phénomène wokiste qui gangrène l'école, potentiellement avec les manuels, sur l'histoire, sur la biologie, etc. Vous connaissez l'idée. Alors,
Bon, ce qu'on attend d'un manuel scolaire en matière scientifique, c'est qu'ils disent la vérité scientifique. Bon. Certes, les vérités scientifiques évoluent, mais enfin, il faut qu'ils disent les vérités établies. Hein. Et donc, là-dessus, l'éducation nationale peut parfaitement jeter un coup d'œil sur les, sous une forme ou sous une autre. Alors, c'est pas Big Brother une nouvelle fois. Hein. Il ne s'agit pas de délivrer une vérité officielle, mais il s'agit de s'assurer que les manuels qui sont mis dans les mains de nos élèves ne soient pas entachés d'idéologie, précisément, mais recherchent uniquement la vérité. Donc ça, c'est. Nous ferons probablement une sorte de révision générale pour voir où en est la situation. Hein, les éditeurs, qui courent le risque de se laisser aller à du wokisme ou qui utilisent, pire encore, l'écriture inclusive dans leur manuel, verront rapidement que ce ne sera pas possible très longtemps.
Mais il y a une possibilité de coercition. Qu'est-ce qui décide, le choix? Ce sont les professeurs, validés par le directeur d'établissement, validés par le recteur, validés par le ministre.
Non, c'est beaucoup
plus simple. Est-ce qu'il y a un contrôle?
Les professeurs ont la liberté pédagogique, c'est dans la loi Fillon, hein. Donc, ils choisissent librement les manuels qui correspondent évidemment au programme qu'ils doivent enseigner. Hein. Donc, le choix est libre dans chaque établissement, vous pouvez choisir le manuel. Les manuels eux-mêmes sont conçus sur la base des programmes édités qui sont des arrêtés, hein, voire des décrets, des arrêtés ministériels. Donc les éditeurs doivent se conformer au programme. Sans ça, les manuels ne sont pas utilisables par le corps enseignant. Donc de ce point de vue-là,
non, mais avec une interprétation qui leur est propre.
Oui, alors voilà. Donc ensuite, évidemment, en fonction des comités de rédaction de ces manuels, vous pouvez avoir des petites touches dans le manuel d'économie, par exemple. On parle beaucoup de l'économie sociale et solidaire. On lui donne une place démesurée. Alors on ferait mieux de parler de l'économie, si je puis dire, réelle. Vous savez, le capitalisme, là, bon, ça existe. Hein, c'est ce qui fait vivre toute la planète. Et donc on devrait en parler davantage. Ça, c'est un point de vue personnel, c'est pas le point de vue du RN. Le RN n'a pas de point de vue sur les manuels d'enseignement. Ce qu'il veut, encore une fois, c'est que ceux-ci délivrent un enseignement fondé sur la vérité scientifique et qu'ils se gardent bien, ces manuels, de tenter d'influencer nos élèves dans un sens ou dans un autre.
Allez, on va parler d'une sénatrice communiste. J'aimerais bien qu'on l'entende avec vous. Elle vous reproche, hein, elle reproche en tout cas au gouvernement, de diminuer le nombre de professeurs de l'éducation nationale. Ce sera l'occasion d'attaquer le sujet des effectifs de l'éducation nationale, juste après cela.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Damien Chalamel et Yves-Marie Sevilla, nous recevons le député Rassemblement National du Loir-et-Cher, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, ancien chef d'établissement, ancien inspecteur d'académie, inspecteur général de l'éducation nationale, il sait de quoi il parle. Et je voulais qu'on écoute le petit mot de la sénatrice communiste Michèle Graume, qui s'adresse au ministre Édouard Geffray au Sénat. Elle lui reproche de diminuer le nombre des professeurs de l'éducation nationale. Ça nous servira pour nous demander si l'éducation nationale est à des effectifs suffisants ou trop nombreux.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors que la France dépense moins que la moyenne des pays de l'OCDE pour ses élèves du primaire et du collège, alors que les classes sont surchargées, que les enseignants sont moins bien rémunérés, le gouvernement poursuit sciemment la destruction du service public de l'éducation. 3200 postes d'enseignants supprimés, 400, soit un poste sur 8, dans la seule académie de Lille la plus touchée. C'est une saignée, comme le rappellent les syndicats mobilisés aujourd'hui. Vous invoquez la baisse démographique pour la justifier, mais cet argument ne résiste pas aux faits. Depuis 2017, près de 10 000 postes ont été supprimés dans le second degré, alors même que les effectifs augmentaient. Votre logique est limpide. Quand les effectifs augmentent, vous invoquez la rigueur budgétaire pour ne pas créer de postes. Quand ils diminuent, vous invoquez la démographie pour en supprimer. Dans tous les cas, l'école perd. La part du budget de l'éducation dans le PIB et dans le budget de l'État stagne, alors même que les coûts augmentent et que les besoins explosent. L'école publique est gérée à moyens constants dans un contexte de pénurie organisée.
Voilà, donc c'était la sénatrice communiste Michèle Grom. J'ai pas noté la date, bêtement, mais bon, c'est pas très ancien. Voilà. Donc, est-ce que on organise la pénurie de l'éducation nationale? Est-ce que le nombre de professeurs est suffisant aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les diminuer? Je crois qu'on en a plus que nos voisins.
On en a plus, enfin.
Par rapport au nombre d'élèves.
Oui, oui, on en a plus que nos voisins. Les Allemands ont moins de professeurs pour le même nombre d'élèves, c'est vrai, mais ils ont d'autres obligations réglementaires de service. Hein. Les professeurs allemands travaillent plus longtemps, ils ont des tâches, ils sont souvent bivalents. Enfin bref, il y a des tas de raisons techniques à ça. Mais le sujet, effectivement, que soulève la collègue sénatrice, c'est celui des effectifs d'élèves et des effectifs de professeurs. Là, le gouvernement, dans le budget passé en 49.3, passé en force donc, va supprimer 4032... 4032 postes d'enseignants, à peu près 3000 dans le primaire et le reste dans le second degré. Bien, Monsieur Geffray, auquel je poserai bientôt la question mardi prochain, hein, je pense, directement, dans l'hémicycle. Monsieur Geffray, je connais déjà sa réponse, il va dire, attendez, si on faisait à la calculette, c'est pas 4000, c'est 8000, c'est 12000. Hein, puisqu'on est en pleine déprise démographique scolaire, ça dégringole, hein, et d'ici 2029, on perd 1 million d'élèves. Bon, effectivement. Il dit, bah, c'est logique, c'est de l'argent public, etc. Tout ça est fort vertueux, très gentil, mais enfin, c'est une logique tout à fait respectable, mais de comptable, hein, d'expert comptable. C'est pas une logique de politique.
Moins d'élèves, moins d'argent.
Voilà. Bon, mais ça ne veut rien
et
dire.
Moins de postes.
Ça ne veut rien dire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'état de l'école, vous avez vu. 50% des élèves de CM2 lisent avec grande difficulté. Vous croyez que c'est le moment de supprimer des profs de poste, de profs des écoles? Ça n'a aucun sens.
Est-ce que vous croyez que c'est vraiment un problème d'effectif ou
C'est une question d'organisation, c'est beaucoup plus vaste que ça, vous avez parfaitement raison. Mais le signal
qu'on
politique.
On répond toujours en disant il n'y en a pas assez. Connu ça depuis 40 ans.
Mais ce que je veux dire, c'est que le signal politique envoyé est désastreux. Les résultats de l'école primaire s'effondrent, ceux du collège sont misérables, et on supprime des postes de profs au lieu d'utiliser des profs surnuméraires à faire de la qualité. Prenons une école. Bon, on ferme une classe, on retire un prof normalement. Là, on laisse le professeur. On laisse le professeur, il est surnuméraire, ça s'appelait autrefois plus de maîtres que de classes. Et ce professeur vient en appui à ses collègues qui ont des difficultés, pour les groupes d'élèves en difficulté, vient en appui dans les classes où il y a beaucoup d'inclusion scolaire, ce qui évidemment a un effet sur la pédagogie, hein, les professeurs peuvent vous en parler. Bref, cette richesse-là, ce savoir-faire, pourquoi s'en priver dans une école qui forcément a des difficultés à gérer et à surmonter? Donc, ce que je dis à M. Geffray, je comprends son raisonnement, qui est le raisonnement de tous ses prédécesseurs, mais ça n'est pas un bon raisonnement. D'autant plus que ça va taper l'école rurale. Évidemment, croyez-moi, c'est l'école rurale qui va encore
dans
trinquer.
Les campagnes
dans c'est là que ça va passer, parce que c'est là que la déprise démographique est la plus visible, la plus sensible. Or, une école qui perd une classe, c'est un drame pour elle. Peut-être que la commune a investi, elle a peut-être mis la clim, elle a végétalisé la cour, elle dépense beaucoup d'argent pour que les élèves s'y sentent bien, et aussi pour que la commune soit attractive pour des populations qui voudraient s'y installer. Quel signal on envoie lorsqu'on ferme des classes? On dit le village est mort. Bon, ensuite, je veux dire, il y a aussi le niveau des élèves, c'est-à-dire que pourquoi fermer à l'aveugle avec un tableau Excel sans regarder le niveau des élèves? Il faut fermer éventuellement là où il n'y a pas de problème, où tout va bien, ça roule, on peut à la rigueur tenir compte de la démographie, mais là où ça ne va pas, où il y a de grosses difficultés, où les résultats sont mettons améliorables, voire franchement mauvais, on ne retire pas le prof, on le laisse. Donc on fait de la politique éducative. Monsieur Geffray fait de la comptabilité, il est dans son droit, je le comprends, mais je ne l'approuve pas.
Philippe Charles, très vite, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti.
Petite question supplémentaire. D'abord, la sénatrice dit que la part du PIB en France est inférieure à nos voisins. Est-ce que c'est vrai? C'est combien? Parce que
il me semblait qu'on était consacré à l'éducation.
Consacré à l'éducation. Parce que je crois que c'est pas vrai. Et la deuxième chose, est-ce que dans l'éducation, on ne pêche pas par un nombre d'administratifs tout à fait excédentaire?
Alors, la part du PIB, ça n'est pas vrai. C'est stable. La dépense intérieure d'éducation est stable. Le problème.
C'est combien environ?
Alors non, là, franchement, là, je suis. Je sèche là, pardon. Mais le vrai problème, c'est que le coût annuel moyen d'un élève du premier degré en France est de l'ordre de 6 500 euros, pour vérifier à peu près, le coût d'un lycéen de plus de 9 000. Et nous sommes le seul pays, effectivement, de l'OCDE, à ne pas avoir aligné les coûts, comme font par exemple tous les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, un élève du premier degré a le même coût qu'un élève du second degré. Ce qui signifie que l'école primaire dans ces pays-là dispose de moyens bien supérieurs à ceux de l'école primaire en France. Et ceci, alors évidemment, cet état de fait a été petit à petit corrigé ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années, mais c'est encore insuffisant.
Ça ne peut pas être légitime compte tenu des matériaux à utiliser dans le secondaire.
Un secondaire.
Pour les
c'est vrai pour
les matières scientifiques.
Pour le lycée professionnel, oui, mais c'est pas trois cornus qui vont. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que dans le second degré, il n'y a pas un maître unique. Donc il y a un élève de terminale, il a entre 9 et 11 professeurs. Donc ça coûte extrêmement cher. Ça pose la question des innombrables options. Il y a 13 spécialités au lycée, hein, et des options, en veux-tu, en voilà. Hein, il y a des dizaines de langues étrangères. Enfin bon, tout ceci est très bien, sauf que ça coûte très cher et que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose à l'université quand on voit les résultats des bacheliers à la fac. C'est-à-dire 50% qui se ratatinent, pardonnez-moi, je deviens vulgaire, dès la première année. Mais c'est quand même agaçant à la longue. Hein. Donc, je pense qu'il faut faire un effort sérieux sur le premier degré. Et arrêter d'utiliser la calculette, mais c'est totalement ridicule. Même modérément, c'est trop. Il faut faire de la politique. Et puis, pour l'école rurale, je reviens à ça, nous, le RN, on fera un moratoire. On fera un moratoire de 3 ans. Pendant 3 ans, on ne touche plus à l'école rurale. On regarde, on fait des observatoires départementaux, sous l'autorité du préfet et de l'inspecteur de l'académie, on regarde ce qui se passe avec les maires, et au bout de 3 ans, s'il faut ajuster, on ajuste. Mais les gens auront eu le temps de prendre leurs dispositions, et on prendra tous les critères en compte. Alors que là, c'est fait tous les ans. Alors, avec l'élève marginal, vous pouvez ouvrir et fermer tous les ans. Bah, c'est ridicule.
Monsieur le député, est-ce que vous diminuez le budget de l'éducation nationale? Est-ce que vous l'augmentez? Est-ce que vous le laissez
comme... Ah bah, il sera sûrement sanctuarisé.
Alors, sanctuarisé. Donc, il reste tel qu'il est.
Oui, parce qu'on n'en est pas encore au programme. Enfin, ouais. je n'imagine pas...
Au chiffrage.
Non, ouais. On n'est pas là. Bon. Pour prendre des mesures, il y a de la marge. Hein.
Alors, juste une précision, le rapport PISA, hein, qui est très connu, enquête internationale de l'OCDE, mené depuis 2000, il compare le niveau des élèves de 15 ans. Entre 2000 et 2022, la France a dégringolé de la 12e à la 28e place. Voilà. Hein, vous nous disiez qu'on avait dégringolé tout à l'heure. Question d'auditeurs. Deux auditeurs nous ont envoyé des questions. Un nous dit « Vous ne lisez pas souvent les messages des auditeurs. » Mais si, je vous lis, justement, cher auditeur. Voilà. Pour autant, donc, cette proposition de portique pour les écoles, il considère qu'elle n'est pas très sérieuse ni honorable. Plus sérieusement, allez-vous nous parler de l'abrogation du collège unique, de la revalorisation du technique, de la limitation du pédagogisme, de quelques bonnes innovations. Voilà.
Je pense que ça va aborder tous les sujets.
Faut répondre en une minute.
Évoqués, je pense que je les ai abordés.
Oui,
et absolument. Le portique, c'est vrai. C'est pas ridicule, puisque ça fonctionne dans les aéroports. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas devant une école.
Voilà. Deuxième question. Merci pour cette émission très intéressante. Merci à vous, cher auditeur. Et ma question sur l'histoire de France. Si le RN arrive au pouvoir, est-ce que l'histoire de France sera réellement instruite à l'école de Vercingétorix à De Gaulle avec Napoléon Bonaparte ? Précise notre auditeur.
Hein ? La réponse est oui, bien sûr. Je suis également l'auteur d'une proposition de loi, je ne suis pas venu faire la pub pour mes PPL, mais je voulais quand même vous le dire, visant à instituer installer plutôt une frise historique dans toutes les salles de classe du premier degré et du second degré jusqu'au collège. Ça existait autrefois. De manière à ce que la chronologie du récit national soit présente partout et en tout lieu, si je puis dire, scolaire bien sûr, pour nos enfants et nos élèves. Parce que nous avons absolument un besoin vital que nos enfants sachent d'où ils viennent, qui ils sont.
Un retour au roman national?
Oui, au roman ou au récit national, comme vous voulez. Il existe une histoire de France. Ça fait 1500 ans qu'on construit notre pays. Hein, et donc, il est normal que l'école, c'est même plus que normal, c'est son devoir, transmette le récit national aux élèves. Alors, il ne s'agit pas d'un récit RN ou d'une histoire officielle. Hein, ça, il faut balayer toutes ces fadaises tout de suite. Hein, nous avons assez de scientifiques, d'instituts et d'universités pour revoir les programmes, des programmes d'histoire tranquillement, pour objectif que dans l'enseignement scolaire, et au moins jusqu'à la fin du collège, les élèves puissent de manière chronologique comprendre ce qui s'est passé avant eux et ce qu'on leur a légué. Hein, nous sommes dépositaires.
Accessoirement, on leur donne l'amour de la France.
Au passage, ils ne peuvent pas. Quand on connaît l'histoire de France, on ne peut pas ne pas aimer ce beau pays, c'est impossible. Quoi.
C'est vrai.
voilà, allez, dernier message de nos auditeurs. Même à Paris, on enlève des classes, et pas seulement en milieu rural, nous dit une auditrice. Et c'est normal. Sauf qu'à Paris, il y a toujours du choix, tandis qu'en milieu rural, on multiplie les kilomètres hein, quand on enlève des classes. Ouais. Quand se posera-t-on la question de la compétence ou non des professeurs, demande-t-elle.
Alors, j'ai soulevé cette question en parlant de la formation initiale des maîtres, en disant que nous allions la retirer à l'université, qui ne fait pas du bon travail, puisque les maîtres, de leur propre avis, hein, ne sont pas correctement préparés à l'exercice du métier d'enseignant. Donc, nous le ferons, les jeunes collègues, après un concours qui sera un vrai concours académique, hein, et pas un concours de pédagogisme, un vrai concours académique basé sur les disciplines, et dans le premier degré sur l'interdisciplinaire, seront formés par leurs pairs. PIRS, hein, par leur père, et donc par des gens expérimentés qui seront déchargés de services ou rémunérés spécialement pour ça, et également par l'encadrement du système. Donc, c'est du compagnonnage. Nous allons établir le compagnonnage dans la formation des maîtres et ainsi relever le niveau général de la qualité de l'enseignement. Je vous le disais, hein, l'effet maître est capital dans le premier degré notamment, aussi dans le second degré, et donc avec de bons maîtres, on a de bons élèves.
Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Roger Chudeau.
Merci à vous.
Vous êtes député Rassemblement National du Loir-et-Cher. On a appris énormément de choses sur l'école publique et sur le dessin du Rassemblement National auprès de l'école, dont vous êtes un grand spécialiste. Merci de nous avoir éclairé aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur Baudrier, de m'avoir accueilli. Merci, messieurs, pour vos questions toutes plus pertinentes les unes que les autres.
Merci à vous.
À bientôt. Vous reviendrez, j'espère. Voilà, nous aurons notre petit clin d'œil culture comme d'habitude, et puis Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, le verrouillage macroniste était un petit peu voyant, ça c'est tout de suite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
La nomination d'Amélie de Montchalin, ancienne ministre de l'Action et des Comptes Publics à la vice-présidence de la Cour des Comptes le 23 février prochain, devait passer tranquillement comme les milliers de nominations décrétées en son fort intérieur par notre président de la République, par une forme de fée du prince. Mais voilà, la décision n'en finit plus de faire des vagues. Une pétition circule, l'extrême gauche et contre la droite nationale aussi. Est-ce naturel qu'un président, je vous pose la question, messieurs, est-ce naturel qu'un président nomme des proches avant le départ? Tous les présidents l'ont fait. Oui, tous les présidents l'ont fait. Damien Chalamel.
Oui, alors...
Donc Amélie de Montchalin à la Cour des comptes.
Alors, savez-vous, mon cher Marc, quel est le surnom d'Amélie de Montchalin?
Non.
Moi, je sais.
Un surnom, alors je pense que nous avons le même en tête, mais qui lui avait été donné, m'a-t-on dit, chez AXA. Amélie de Nonchalance.
Ah non, moi j'avais Amélie de Montchalin.
Amélie, parce qu'elle
était très donneuse de leçons, et puis pour son côté un petit peu serre-tête, et un peu catho-conservatrice.
Voilà, bah, écoutez, non, mais je pense que. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, mais Amélie de Nonchalance, je trouve que ça lui va très bien. Non, en soi, le fait que. Non, c'est absolument pas choquant. Ce qui est choquant, c'est le profil et l'âge hein, et l'expérience d'Amélie de Montchalin. Les précédents présidents de la Cour des comptes, quoi qu'on en pense, M. Moscovici, je ne sais pas, moi au hasard, M. Jox, M. Arpaillange, M. Seguin, sont tous, ça n'aura pas échappé à personne, des anciens conseillers à la Cour des comptes. Ils en sont issus, c'est tout de même une juridiction financière. Hein. Alors là, effectivement, et par ailleurs, Madame Montchalin, non seulement n'est pas conseillère à la Cour des comptes, non seulement n'a pas cette formation, n'a jamais exercé dans une quelconque juridiction, je crois qu'elle a fait HEC, c'est tout à fait respectable, mais enfin, ça ne fait pas d'elle un magistrat de cette juridiction financière qu'est la Cour des comptes. Par ailleurs, elle est très jeune.
Elle a 40 ans.
Et ce qui veut dire qu'en réalité, en la nommant, on va la conserver pendant combien de temps?
28 ans.
Voilà, potentiellement.
Donc, possiblement jusqu'en 2054.
Sachant que, voilà, donc c'est compte tenu précisément de son statut de magistrate qui la rend inamovible. Donc effectivement, c'est là que vraiment il y a une espèce d'impudence macronienne. a nommé des très proches à des postes clés. Alors on a tous en souvenir la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel.
Il était un ancien journaliste.
Oui, voilà, bien évidemment, très qualifié pour statuer en matière constitutionnelle.
Ce qui est très respectable.
On ne critique pas les journalistes.
Non.
donc on va être pour répondre à votre
question. C'est interdit.
Pour répondre à la question, ça n'est pas tant le fait qu'elle ait exercé des responsabilités politiques. Au contraire, c'était même très bien qu'elle en ait eu. Non, le problème, c'est son âge et sa formation et son absence de qualité à être juge ou président d'une juridiction, en tous les cas.
Bien sûr, mais vous ne parlez pas de son ancrage politique. Philippe Charlez,
deux remarques. La première chose, c'est qu'il y a quand même un mélange des genres, puisqu'elle était ministre du budget, donc elle a voté ou construit un budget, qu'elle va maintenant être en position de critiquer, ou de ne pas critiquer. Donc, je veux dire, il y a quand même un mélange des genres. Elle était partie, elle devient juge. Donc, elle est juge et partie.
Mais c'est ça.
Non, justement, elle ne l'est plus.
Alors, elle ne l'est plus, elle ne l'est plus officiellement.
Ouais. Et elle devient juge, donc elle est juge et partie.
Voilà, la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a également un changement de personne. Alors, c'est pas tout de suite, mais c'est parce que c'est au Conseil d'État. C'est ça, hein?
Oui, vice-président du Conseil d'État.
Voilà, qui a démissionné.
Ah non, ça c'est la Banque de France.
Voilà, c'était ça. Ouais. Qui démissionne.
Ça, c'est Véron de Gallo
qui a démissionné. Enfin, qui va démissionner, je crois, à l'été, pour être remplacé, de telle manière à ce que quand le nouveau président arrivera, il soit indéboulonnable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une manœuvre assez nette pour mettre des gens qui seront indéboulonnables à l'arrivée de la nouvelle législature, qui, si elle est hostile, incontestablement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux responsables d'académie et aux présidents d'université, incontestablement, si le RN arrive au pouvoir, il va trouver face à lui un tas de gens hostiles qui vont l'empêcher de travailler.
Ah bah ça ressemble à un verrouillage géant. Yves-Marie Sévillien.
Oui, non, mais c'est pour rebondir sur ce verrouillage. Là, c'est vraiment c'est très impressionnant et c'est l'enchaînement. C'est-à-dire que 2025 et début 2026, ça s'enchaîne. Comme on l'a dit, Monsieur Ferrand au Conseil constitutionnel, même l'ARCOM avec Martin Adjari est dirigé par un ancien directeur de cabinet de plusieurs ministères, sous François Hollande. Vous avez Clément Beaune, ancien ministre macroniste, qui est au Haut Commissariat au Plan. Vous avez une succession, on l'a évoqué, le directeur de la Banque de France, le Conseil d'État, et c'est pas des nominations, alors parfois il peut y avoir des concordances de temps, mais là, la démission surprise du directeur de la Banque de France, ça surprend. C'est-à-dire que ce ne sont pas des nominations en début de mandat, qui pourraient entrer en cohérence avec effectivement... un appareil d'État qui avance, un projet politique qui avance, et voilà, qui a été décidé démocratiquement par l'élection, et l'État avance. Là, effectivement, ce sont des nominations en toute fin de mandat, donc effectivement, on peut se poser les questions de l'intention d'Emmanuel Macron derrière.
On sait par exemple que le RN voudrait faire passer un référendum sur l'immigration, et que ça peut être sanctionné par... je crois que c'est le Conseil constitutionnel, hein, là, c'est pas le Conseil d'État.
Oui.
Et évidemment...
faire d'abord une réforme.
La position de M. Ferrand, on peut se demander si...
En tout cas, c'est extraordinaire, parce que tous ces corps d'État sont représentés par des socialistes. C'est extraordinaire. Ils représentent 1,5% des voix.
Amélie Montchalin était
LR. Pas Amélie de Montchalin, c'est vrai. Mais enfin, la plupart, ou des macronistes. Et tous ces gens-là sont devenus extrêmement minoritaires. En tout cas, Amélie de Montchalin n'a pas tout perdu, hein, puisqu'elle sera rémunérée 13 000 euros net par mois, à vie, hein, plus logement de fonction, qui est, paraît-il, assez confort, hein, et assez bien placé. Je voulais qu'on écoute Henri Guénot. Hein, il est très clair, il dit qu'il a honte, et il donne l'importance de cette institution qui a été créée, tenez-vous bien, en 1320. Hein, c'était cette semaine sur CNews, on l'écoute.
Alors, moi, je ne sais pas qui j'aurais nommé, mais je n'aurais certainement pas nommé Amélie de Montchalin. Voilà. Oui. Et, si vous voulez, je me pose une question en préalable face à cette nomination. C'est pourquoi, chaque fois que le président de la République prend une décision de nomination ou une décision politique, j'ai honte pour mon pays. Voilà. Ben voilà, une de plus. Une de plus.
Un jour un sketch.
Une de plus. Alors, je vais vous dire, moi je connais bien la Cour des comptes, je ne l'ai jamais dit, je n'en ai jamais parlé sur ces plateaux. Je suis à la retraite depuis quelques mois, ça me donne le droit d'en parler. J'ai été 20 ans membre de la Cour des comptes et j'y ai exercé pendant 10 ans. Si je compte les sorties, à part les sorties comme quand j'étais député ou à l'Élysée. Bon, mais 10 ans à la Cour. Donc je la connais bien, c'est une institution qui a les défauts de toutes les institutions humaines, mais qui est absolument indispensable à l'équilibre de notre construction constitutionnelle, et c'est la plus vieille institution publique française. La plus vieille.
Napoléon.
Elle date de 1320.
Ah oui.
1320. Elle a été à un moment...
Alors, c'est, le roi ne le dit pas.
Oui. Quand le roi de France a créé la Chambre des comptes de Paris, puis ensuite il y a eu des chambres des comptes dans les grandes provinces, ça a été, il y a une petite parenthèse à la Révolution où on a supprimé ça, et puis Napoléon l'a reprise, voilà. Et le statut
l'a modernisé.
Voilà, le statut actuel est celui que Napoléon lui a donné en 1807. Bon. Mais donc c'est un héritage considérable. Il n'y a pas un pays d'ailleurs qui n'a pas l'équivalent d'une Cour des comptes.
Voilà, donc c'est quand même la clé de voûte d'un système. On comprend bien, hein, à travers ce que dit Henri Guénaud, que l'importance pour Emmanuel Macron d'avoir quelqu'un à lui, et à la gauche, hein, ou au centre, je sais pas comment on va dire ça, au macronisme, d'avoir quelqu'un à lui à la Cour des comptes, puisque c'est un verrouillage très ancien. Damien Chalamel, ça vous a surpris, 1320
Non, non, mais j'ai des vieilles réminiscences d'histoire des institutions. Donc non, mais encore une fois, contrairement peut-être à certains autour de cette table, ce n'est pas tant le profil qui me... Enfin, le profil. Le fait qu'elle ait exercé des responsabilités qui sont les siennes au budget, c'est le fait qu'elle ne soit pas membre historiquement de la Cour des comptes et qu'elle soit si jeune, ce qui donc, compte tenu de l'inébovibilité liée à son statut de magistrat... Voilà, c'est ça qui est très gênant. Mais maintenant, Madame Nonchalance, je ne sais plus comment s'appelle-t-elle, elle s'appelle, mais...
Voilà, mais on ne plaisante non, mais, pas sur les noms de famille.
Non, mais elle n'est pas, foncièrement, ce n'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas Daniel Obono.
Oui, bon, oui, non, c'est certes. Certes, mais enfin, il y a quand même un...
Bon, enfin, elle est quand même comptable d'une situation, elle est quand même ministre des pouvoirs publics. Des comptes publics. Mais donc, en fait, c'est là, vous évoquiez, Damien, effectivement...
Philippe Seguin, Pierre Arpaillange, Pierre Jox, ça a été tous comptables à leur niveau... À
mais
leur
d'une situation qui était peut-être un petit peu moins catastrophique que la nôtre.
Les comptables
recyclés, je suis sûr que ça dépasse les cinq doigts de la main.
Alors, il y en a un qui est beaucoup plus sévère que Damien Chalamel, il s'appelle Éric Ciotti, et il parle d'un clan qui met la main sur les leviers de pouvoir. C'était sur LCP ce 10 février.
C'est un scandale d'État, je le dis. C'est une appropriation d'un clan sur les institutions de la République. Ça suffit. Ça suffit que les grandes institutions, les grands corps de l'État, soient aujourd'hui pris en otage par le macronisme finissant, par la volonté de recycler des personnes qui n'auront politiquement plus aucun avenir. Je suis extrêmement choqué, je suis scandalisé par cette nomination. C'est une nomination pour 28 ans. Hein, Madame Montchalin, si la loi ne change pas, et nous la ferons changer, naturellement, mais elle pourrait rester aujourd'hui 28 ans en fonction. C'est totalement inacceptable, c'est totalement insupportable, et ça démontre combien un clan aujourd'hui veut prendre en main, contre le peuple de France, tous les rouages de l'appareil d'État, tous les grands corps d'État, pour se maintenir au pouvoir, alors que les urnes rejettent massivement ce pouvoir.
Voilà, un clan contre le peuple de France pour tenir les manettes du pouvoir et finalement empêcher le peuple de décider ou d'influencer les décisions qu'il souhaiterait à travers le gouvernement qu'il aura élu. C'est ce que décrit Éric Ciotti, c'est quand même lourd. Et moi, je trouve qu'il a raison.
Oui, mais effectivement, la droite Yves nationale, l'UDR et le RN... forcément saute au plafond, parce qu'effectivement, à la tête d'une telle institution,
c'est un contre-pouvoir qui est mis en place.
Considérable.
Ça me fait penser au départ de de Trump. Vous savez, lorsque Joe Biden s'est installé, il avait mis... c'était avant. Lorsque Donald Trump s'est installé au pouvoir aux États-Unis pour la première fois, lors de sa première élection présidentielle, il avait trouvé toutes les institutions complètement verrouillées par la gauche et qui lui a fait une guerre absolument pied à pied pour chaque mesure qu'il prenait. Et lui-même a renommé ensuite ses institutions. Et donc, quand il est revenu, il a trouvé des institutions qui lui étaient beaucoup plus favorables, ce qui lui permet aujourd'hui de gouverner bien plus les mains libres. Damien Chalamel.
Non, moi, j'ai pas le même avis sur vous. Alors, j'ajoute que concernant Donald Trump, c'est ce qu'on appelle le spoil system. Ça n'est pas le système français. Dans le système français, on peut le déplorer, mais les hauts fonctionnaires restent en place, à part quelques exceptions près, et a fortiori quand ils sont magistrats, heureusement, sinon ce serait une vraie république bananière, on tend déjà à le devenir, mais alors là, si en plus les magistrats, qu'ils soient de l'ordre judiciaire, administratif ou financier, ne sont plus inamovibles, et peuvent être changés parce que l'exécutif change, là c'est la république bananière. Non, en revanche, moi, il y a quand même malgré tout ce qui me gêne dans cette nomination, donc outre les critiques que j'ai déjà faites, c'est que c'est également une manifestation d'hostilité au corps. Au corps, j'entends au grand corps de l'État. Mmh. Donc on sait que le corps préfectoral a été supprimé, le corps diplomatique a été supprimé. Et là, le corps des conseillers à la Cour des comptes n'a pas été supprimé encore, mais de manière très symbolique, voilà, on nomme quelqu'un qui n'en est pas issu. Donc c'est là il y a aussi là je suis bien d'accord sur le fait qu'il y a un syndrome du macronisme finissant, peut-on l'espérer, on ne sait jamais, hein, qui est déplorable.
Mais on évoque énormément le passé, et effectivement c'est arrivé précédemment, mais est-ce qu'on peut pas souhaiter ou espérer que si un jour le Rassemblement National devait gouverner la France, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour ce genre de grands postes à prendre des personnes qui ne soient pas forcément issues du corps politique pour des spécialistes qui puissent être issus de la société civile? Est-ce que c'est pas préférable?
Je ne le pense pas. Je pense que quand on a une expérience...
Il faut les professionnels...
Et c'est ce qui fait notamment la richesse, par exemple, d'une autre juridiction,
peut-être avec
le Conseil d'État.
Une coloration politique
c'est
moins marquée.
C'est d'avoir été à la fois souvent en ministère, hein, dans des cabinets ministériels, et juge. Enfin, pas au même moment, bien évidemment. Donc je pense qu'au contraire, des juridictions comme la Cour des comptes s'enrichissent d'avoir des personnalités issues précisément de politiques qui ont exercé des responsabilités et qui ne sont pas restées que fonctionnaires.
Et vous pensez que...
Le président Seguin a été, dit-on, un grand président de la Cour des comptes. Et c'est quelqu'un qui était quand même extrêmement engagé dans la vie politique de son pays. Et c'était reconnu, y compris par des gens de gauche. Non, moi, par ailleurs, les présidents de chambre, eux, ils sont tous issus de la Cour des comptes. Hein, pas non plus...
Il n'y a que Sarkozy, hein, je crois, qui avait nommé un opposant à la Cour des comptes.
Didier Rabuteau.
Didier Migaud, absolument.
Qui était très respecté également, oui. Et qui était issu, là aussi.
Il est resté un socialiste. Oui,
il est resté très longtemps, d'ailleurs.
Et qui était issu de la Cour des comptes.
Ouais, alors, on va quand même... on confie quand même le soin à Madame de Montchalin de juger le budget qu'elle a elle-même ficelé.
Oui, enfin, de juger le budget, elle ne juge pas...
De l'analyser, en tout cas, de donner son avis, donner l'avis de la Cour des comptes.
Parce que elle juge, c'est surtout... La Cour des comptes connaît de l'usage...
Ça vous dérange pas, ça, Damien Chalamel?
Non, mais parce que la Cour des comptes statue ex post sur l'usage qui est fait des deniers publics. Alors, au niveau national et au niveau régional, puisqu'il y a des chambres régionales de la Cour des comptes. Par ailleurs, pour le grand public, la Cour des comptes est connue plus pour ses rapports, qui sont des rapports, qui sont des avis, dont les journalistes se délectent chaque année, mais ce n'est qu'une toute petite partie, puisque l'essentiel de son rôle, c'est le contrôle de l'usage. Alors, je ne vois pas en quoi le fait qu'on ait été précédemment... en fonction en tant que ministre ne vous rend pas moins compétent en théorie pour juger.
Compétent, non, mais on a bien vu, par exemple, avec.
Sur l'usage qui est fait des finances
avec
publiques.
Avec le précédent président de la Cour des comptes, pardon, Damien Chalamel, on a vu qu'avec le précédent président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qu'il avait su retarder la publication de certains rapports de la Cour des comptes. Dont un rapport sur l'immigration, ouais. Pour ne pas qu'il interfère sur les élections en cours. Si c'est pas une influence politique, ça, alors.
Là, on est effectivement dans la médiocrité du personnage, j'entends bien. Bon, enfin, maintenant, on n'avait pas besoin de la Cour des comptes et de ce rapport pour savoir que la France était submergée par une immigration incontrôlée afro-maghrébine pour l'essentiel. Enfin, je veux dire, c'est
Oui, mais enfin, ça aurait peut-être décidé quelques voix supplémentaires. Alors, je voulais qu'on qu'on donne la parole à Maud Bréjon. C'était ce 11 février en sortie de conférence des ministres. Elle défend évidemment la nomination d'Amélie de Montchalin. Elle est d'accord avec Damien Chalamel.
D'abord, ça ne pose aucun problème de conflit d'intérêts. Et attention quand même aux expressions que l'on emploie. Je ne le dis pas pour vous, mais pour éventuellement ceux qui l'utiliseraient. Et ça ne pose pas de conflit d'intérêts parce que la structure et l'organisation inhérente à la Cour des comptes, le fait qu'elle repose notamment sur des décisions collégiales, Amélie Montchalin ne travaillera pas seule, fonde cette indépendance, indépendance qui continuera. J'ajoute par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'un ministre en exercice est nommé à la Cour des comptes. Alors ça remonte certes à quelques années, mais enfin quand François Mitterrand nomme Pierre Joxe à la Cour des comptes, Pierre Joxe était ministre de la Défense, pardonnez-moi, et part en 4 jours à la Cour des comptes. On ne lui a pas reproché de partialité vis-à-vis du pouvoir en place, puisque c'est aussi ça les critiques que j'entends, en tout cas, chez une part de nos opposants. Donc, voilà, je me permets d'y répondre.
Voilà, donc, vous avez entendu les arguments de Damien Chalamel développés par Maud Bréjon.
on entend une voix derrière. On dit effectivement, la différence, comme notable, c'est qu'il était ministre de la Défense et pas forcément des comptes publics.
Oui, ce qui est quand même une... Alors, à court terme, c'est une différence à court terme, parce qu'une fois que... Le budget qu'elle a préparé sera passé, finalement.
Mais je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis de Mme de Montchalance, mais ces personnages qu'on vient de citer... ce soit Pierre Joxe, pour être un peu équitable, ou Philippe Séguin, avaient une autre envergure, quoi, une autre stature.
Alors justement...
C'est le fond du sujet,
Damien,
quand même.
C'est ce que dit... Éric Ciotti, qui était interrogé ce 10 février sur BFM TV.
Philippe Séguin, excusez-moi, alors je ne suis peut-être pas objectif, mais si on en est arrivé à comparer Philippe Séguin et Amélie de Montchalin, sincèrement, Philippe Séguin est un des plus grands hommes d'État de ce siècle. Il n'a sans doute pas eu le destin politique qu'il méritait. Il a eu une vision très prospective sur l'Europe. Je l'ai côtoyé, c'était quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement impressionnant. Quand on voit Madame Montchalin, petit télégraphiste du macronisme, sincèrement, bon, à chacun ses comparaisons. Oui, mais... Moi, je n'oserais pas comparer Philippe Séguin à Madame de Montchalin. Mais...
Voilà, c'était donc Éric Ciotti qui met en petit bois notre ami Montchalin.
Non, mais très rapidement, je pense que effectivement, les raisons pour lesquelles la droite nationale s'insurge, c'est aussi dû aux symptômes de la médiocrité progressive et de la baisse du niveau de nos hommes publics et politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus véritablement l'impression que c'est le sens de l'État qui dirige ces personnes. Donc, y a une tendance naturelle chez les Français et du coup le personnel politique de l'opposition à ne plus avoir confiance.
Ouais, absolument. Alors c'est un petit peu ce que dit Marine Le Pen, vous lui avez peut-être soufflé dans l'oreille, Yves-Marie Sevilla. J'appelle solennellement Emmanuel Macron à abandonner la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Une telle nomination serait une énième preuve de la dérive illibérale d'un régime agonisant, prêt à toutes les transgressions éthiques pour placer ses fidèles et perturber la future alternance démocratique, parce que c'est vrai que c'est là qu'on a le doute. Je vous donne la parole tout de suite, Philippe Charlez. Je termine juste le petit message posté sur X par Marine Le Pen. Emmanuel Macron a ruiné les comptes publics et Madame de Montchalin a une lourde responsabilité dans ce bilan désastreux, etc. Philippe Charlez.
Non, je voulais simplement dire que je vais prendre Madame Le Pen au mot, parce que le jour où elle deviendra, ou Jordan Bardella, président de la République, il faudra qu'elle nomme à des postes clés des gens qui sont de son côté. Il n'y a rien à faire. Sinon, comme vous dites...
Oui, mais dans 28 ans pour la Cour des comptes. Il faut une belle durabilité, si
oui,
je puis dire.
Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où elle arrivera au pouvoir et qu'elle mettra ce qui est légitime et logique des gens qui pensent comme elle, on l'accusera aussi de mettre ses copains au pouvoir. Donc, si vous voulez, on s'y retrouve.
Allez, on clôt le chapitre Montchalin, sauf qu'il y a quelques questions d'auditeurs. Pourquoi parler autant de cette institution, la Cour des comptes, qui ne sert à rien et n'a jamais rien empêché, nous dit une auditrice. Voilà, c'est vrai, ce qui est assez vrai, sur le fond, elle n'a jamais rien empêché. Enfin, elle est claire.
C'est tout à fait faux.
Bah, elle a une grande utilité. Mais oui, sur un point précis, pardon, Damien, vous rebondirez, mais ouais. Charles Alloncle utilise énormément les rapports de la Cour sur
l'audiovisuel
public.
Elle est claire beaucoup, mais elle n'empêche pas.
Elle n'empêche pas, mais enfin, c'est ce que semble dire notre cher auditeur. Je pense qu'effectivement, il y a des raisons précises de surveiller toute la question et de le faire de façon indépendante.
Bien sûr.
Non, elle a un rôle très important, mais qui est encore une fois ignoré du grand public. C'est avant tout une juridiction. C'est avant tout une juridiction. D'accord. Elle juge de l'usage par les comptables publics de l'argent public. Et régulièrement, elle condamne. Donc, elle a un rôle très important. Et le rôle de ses rapports, ça n'est qu'une toute petite partie de son activité.
Alors, avis très intéressant d'un de nos auditeurs qui dit « Macron a bien raison de verrouiller le système, figurez-vous. Cela obligera à dynamiter la chose par une réforme de la Constitution qui supprimera le bidule, ce qui réglera le problème de ces soi-disant institutions éternelles. On sait ce qu'ont duré les empires 2000 ans. » Bon, oui, c'est pas faux, hein, ça obligera à secouer un peu le système. Un dernier message. Bonjour, très intéressant. Continuez, merci, cher auditeur. Vous allez évoquer la nomination étonnante de la première présidente de la Cour des comptes. Elle est inamovible, nous l'avons dit. Elle a le même souci que ses nominations anciennes. Le décret devrait reprendre son nom de femme qui n'est pas Montchalin, mais Amélie Baumier. Voilà. Dernier point, la conséquence de l'interdiction. Alors ça, on reparle de l'éducation.
C'est un
l'interdiction,
message.
C'est un message d'une auditrice à propos de l'éducation et de l'interdiction aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. La conséquence de cette interdiction sera inéluctable. Encore un peu plus de contrôle de la population faisant suite à toutes les mesures françaises et européennes déjà prises.
Débat.
J'espère que non. Autre débat. Et enfin, un auditeur qui répond à Philippe Charlez, l'intervention russe est justifiée et indispensable en Ukraine car la population du Donbass est massacrée. Voilà, c'est l'avis de notre auditeur. Ça n'est pas celui de Philippe Charlez, ni le mien. Il nous reste 2 minutes pour parler de notre... Même pas 1 minute pour parler de nos recommandations culturelles. Est-ce que quelqu'un a lu un livre, vu un film, assisté à une exposition? Allez, Philippe Charlez.
Allez,
très
moi,
vite, hein.
Après 2 secondes. Après la trilogie Le Mage du Kremlin, l'affaire Bozarski, j'ai été voir Nuremberg, que je conseille parce que c'est assez intéressant, la relation entre Göring et son psy.
Merveilleux. Damien Chalamel. Et
toujours le Nuremberg. Même auteur. Non, toujours le même auteur, notre ami Thierry Bouclier, dernière biographie de Roger Nimier.
Eh bien, merveilleux.
Voilà, aux éditions LIF.
Merveilleux, il faut lire...
Dans la collection Qui suis-je ?
Notre ami Thierry Bouclier. Yves-Marie Sévillain.
Écoutez, moi je suis en train de découvrir... Une longue épopée, donc elle peut me prendre du temps, un certain nombre d'émissions. C'est Le Cheval Rouge de Genio Corti.
Oh là là, ah oui.
Et donc effectivement, je trouve ça passionnant parce que vous avez toute une fresque des Italiens qui sont pris dans les affres des combats contre les communistes. de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est voilà. Très plaisant pour nos auditeurs qui aiment lire longuement.
Le Cheval Rouge.
1400 pages.
1400 voilà. pages. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à tous. Merci à vous, Damien Chalamel, Philippe Charlès, Yves-Marie Sevilla. Merci à Jocelyn, à la technique. Heureux d'avoir passé ces deux toutes petites heures en votre compagnie, comme Boulevard Voltaire. N'oubliez pas, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie dans le climat actuel, eh bien, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 20 février, même heure, même adresse, restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.